Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Bienvenue dans l'édition de la nuit. À la une de l'actualité, l'affaire Nahel, qui avait marqué le début des émeutes de 2023 en France, a fait l'objet ce dimanche d'une reconstitution. Celle-ci doit permettre de déterminer si le policier qui a tiré sur le jeune de 17 ans était en danger de mort au moment du coup de feu. Les actes antisémites en France sont en hausse depuis les attaques du Hamas le 7 octobre. C'est le résultat d'une vaste enquête menée par l'IFOP et l'antenne française de l'American Jewish Committee. Plus de précisions dans ce journal. Xi Jinping de passage en Europe pour la première fois depuis 2019 et le début de son voyage le mène en France où le président chinois vient célébrer les 60 ans de relations entre la France et la Chine. Tous les détails de cette visite dans cette édition. Et puis toujours pas d'accord entre Israël et le Hamas autour d'une trêve à Gaza. Les discussions doivent reprendre mardi en Égypte. Ce dimanche, Benjamin Netanyahou a réaffirmé qu'Israël ne cédera pas face aux demandes du mouvement islamiste qui réclame un arrêt de la guerre à Gaza. Moins d'un an après la mort de Nahel, tué fin juin 2023 par le tir d'un policier, le centre-ville de Nanterre était aujourd'hui bouclé dans le cadre d'une reconstitution sous haute surveillance, en présence notamment de la mère de Nahel, du policier auteur du tir et de son collègue. Retour sur cette journée avec Célia Barotte.
Pour la première fois, toutes les parties de cette affaire se sont rencontrées. Elles ont confronté leur déposition sur la scène de crime. Les témoins de ce 27 juin, les deux policiers impliqués dans cette affaire, mais aussi les deux passagers qui accompagnaient Nahel dans la Mercedes jaune, ont donné leur version des faits. Les deux policiers ont refait les mêmes gestes. Ils étaient vêtus d'un gilet pare-balles et d'une cagoule pour préserver leur identité. L'enjeu pour les enquêteurs était de déterminer si le policier mis en examen pour homicide volontaire était en danger lorsqu'il a tiré, lorsqu'il a utilisé son arme. Selon une source proche de l'enquête, la mère de Nahel, qui était présente sur les lieux, était beaucoup émue d'assister à cet acte d'enquête. Une reconstitution sous haute sécurité, puisque un dispositif a été déployé aux abords de la scène de crime. La place Nelson Mandela était bouclée. Il y a eu des contrôles de la part des nombreux effectifs de gendarmerie présents sur place. Et puis, des médiateurs municipaux étaient présents aux côtés des jeunes de Nanterre pour éviter tout débordement.
Nouvelle fusillade à Sevran en moins de 48 heures après une première liée à un règlement de compte qui avait fait un mort et plusieurs blessés. Ce dimanche en début de soirée, deux hommes de 31 et 35 ans ont été tués par balles. Ils étaient déjà connus également pour des faits liés au trafic de stupéfiants. Le ou les suspects de cette fusillade ont pris la fuite. Je vous propose d'écouter le préfet de police de Paris, Laurent Nouniès, au sujet du renforcement de la sécurité dans le secteur.
On sera présent en termes de sécurisation. On l'a été ces jours derniers, on le sera dans les jours qui viennent. Le ministre de l'Intérieur m'a demandé de mobiliser beaucoup d'effectifs en présence de voies publiques, des effectifs locaux, mais aussi des effectifs de forces mobiles. Il y en a ce soir à Sevran. Et donc nous allons être extrêmement présents pour sécuriser les quartiers, bien évidemment. Et puis aussi, on va poursuivre, mes services vont poursuivre, sous l'autorité du procureur de la République de Bobigny, on va poursuivre les investigations judiciaires pour lutter contre le trafic de stupéfiants.
Depuis le 7 octobre, la France connaît une hausse importante des actes antisémites. C'est le résultat d'une enquête menée par l'IFOP et les chiffres sur le ressenti des Français par rapport à l'antisémitisme sont très inquiétants. Charles Pousseau, Solène Boulan et Tancred Guillotel.
Depuis l'attaque du 7 octobre perpétrée par le Hamas, un quart des Juifs en France a été victime d'un acte antisémite. C'est ce que révèle l'IFOP dans une enquête menée par l'antenne française de l'American Jewish Committee. Un climat qui pousserait la communauté à s'effacer dans l'espace public. 44% des Juifs français sondés ne portent plus la kippa dans la rue. 33% disent avoir réduit ou arrêté leur déplacement en Uber. Une situation que déplore Anne-Sophie Seban-Bekash, la directrice de l'American Jewish Committee Paris.
Dès le lendemain du 7 octobre, comme si la passion antisémite en Israël avait déclenché partout dans le monde un sentiment, une haine anti-juive qui a vraiment créé ce sentiment de peur extrême chez les Français juifs et d'ailleurs chez les juifs du monde entier.
La haine et le rejet d'Israël seraient la première cause de l'antisémitisme en France. 35% des moins de 25 ans estiment justifié de s'en prendre aux juifs en raison de leur soutien à Israël, contre 21% de la population générale.
Gérald Darmanin en une du JDD, le ministre de l'Intérieur entend bien riposter face aux frères musulmans, ce groupe islamique dont Gérald Darmanin décrit la stratégie d'infiltration qui vise tous les aspects de la vie quotidienne. Les détails avec Augustin Donadieu.
Le message est clair, Gérald Darmanin lance sa riposte aux frères musulmans. Dans les colonnes du JDD, le ministre de l'Intérieur annonce la rédaction prochaine d'un rapport public sur la menace que représente cette confrérie en France.
Nous n'avons pas besoin de ce rapport pour comprendre ce qu'il se passe, nous le savons. Mais il est nécessaire pour convaincre la France, les institutions, les élus locaux et les décideurs.
Le ministre précise qu'il ne souhaite pas combattre un courant de l'islam, une interprétation de la religion, mais un projet politique. Ce dernier qui viserait à rendre la société charia compatible en redéfinissant les normes sociales peu à peu.
Ils attaquent tous les pans de la société et se constituent en réseau. Le sport, l'éducation, la médecine, la justice, les organisations syndicales et étudiantes. Ils donnent des consignes de vote, soutiennent des commerces communautaires, usent d'une rhétorique anti-française. Regardez à quelle vitesse nous avons adopté le mot islamophobie dans notre vocabulaire quotidien. Ce mot est le leur, et il recouvre leur stratégie première, celle de la victimisation.
Face à une mouvance qui serait passée de 50 000 adeptes à 100 000 entre 2019 et aujourd'hui, selon le renseignement territorial, Gérald Darmanin en appelle à un sursaut européen.
De plus en plus de pays européens ouvrent les yeux et rejoignent cette lutte. Mais il faudrait une véritable révolution philosophique des institutions européennes.
Le rapport demandé par Emmanuel Macron est prévu pour l'automne prochain.
Toujours dans le journal du dimanche, Éric Ciotti tire la sonnette d'alarme en matière de sécurité. Le président des Républicains déplore chaque jour en France 1000 personnes sont victimes de coups et blessures volontaires, soit un quasi doublement depuis 2012. Selon les députés des Alpes-Maritimes, nous sommes au bord du précipice. Il propose donc 10 chantiers avec 25 mesures concrètes pour retrouver la paix sociale en France. Sujet signé Yaël Benamou.
Pour le président des Républicains, Éric Ciotti, il faut rompre au plus vite avec la faiblesse, la passivité et la naïveté. Son premier chantier concerne sans surprise l'immigration, avec une première mesure forte, expulser systématiquement les étrangers qui se trouvent sur notre territoire et qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement ou qui représentent une menace pour l'ordre public. Rétablir l'ordre dans la rue est aussi l'une de ses priorités. Il propose donc la création d'une force spéciale permanente qui aura vocation à intervenir à tout moment dans les quartiers les plus sensibles et la mise en place de checkpoints policiers aux quatre coins des quartiers gangrénés par le trafic de drogue. Éric Ciotti veut aussi assurer une réponse pénale dissuasive. Il préconise de mettre en place de courtes peines de privation de liberté à partir d'une semaine de prison, de construire des places de prison pour passer de 61 000 aujourd'hui à 100 000 places, d'abaisser la majorité pénale à 16 ans et de supprimer l'excuse de minorité. Concernant la violence à l'école, les Républicains proposent que les professeurs harcelés, menacés ou agressés bénéficient systématiquement du soutien de leur hiérarchie et ils souhaitent aussi interdire les téléphones portables au lycée. Enfin, Éric Ciotti souhaite supprimer les allocations familiales aux parents qui manquent à leur devoir d'éducation. Pour lui, la balle est désormais dans le camp du président de la République.
Cette histoire à Cannes à présent, voilà maintenant deux semaines que Danielle Trottini est en grève de la faim. La raison, elle ne touche plus les loyers du bien qu'elle loue depuis septembre 2023. Reportage Franck Trivio avec le récit de Clotilde Payet.
Cela fait déjà 14 jours que Daniel, propriétaire d'un appartement, est en grève de la faim.
Vous avez fait un malaise, vous êtes parti à l'hôpital, oui. Et vous avez dit aussi, je ne lâcherai pas.
Non. Bah non, quand on en arrive là, ça sert à quoi de lâcher? Enfin, c'est où on va jusqu'au bout ou on n'y va pas du tout.
La Canoise est déterminée à faire entendre sa revendication.
Je reçois un courrier en recommandé. Et c'est la Banque de France qui m'indique que les loyers impayés de mes locataires sont effacés. C'est-à-dire, ils ne doivent plus rien.
Plus de 16 000 euros, c'est le montant de la dette des locataires de Daniel effacée par la Banque de France. Pour elle, cette situation est injuste.
Quoi, aujourd'hui, un voleur, il n'est plus un voleur? Parce que moi, j'appelle ça du vol. Et c'est un vol impuni.
Et pour faire entendre sa colère, Daniel n'a pas trouvé d'autre solution que la grève de la faim, son dernier recours pour alerter sur sa situation.
pour que je sois entendue aussi clairement, que je sois entendue, qu'on comprenne que je trouve ça injuste. Et je suis sûre, je ne suis pas toute seule qui trouve ça injuste. Ce n'est pas possible.
La propriétaire attend donc une réaction. Elle espère pouvoir récupérer les sommes qui lui sont dues.
Ces gens-là ont fait un dossier de surendettement. Et on attend quoi? Que je fasse moi un dossier de surendettement derrière? Là, ça va. Mais demain, ça ne va plus aller. Enfin, je veux dire, c'est pas... Moi, j'ai pas un puissant fond.
La grève de la faim de Daniel a déjà suscité des réactions chez les politiques, dont celle du maire de Cannes, David Lisnard, qui a tenu à lui exprimer son soutien.
Xi Jinping est arrivé en France pour sa première tournée européenne depuis 2019. Le président chinois vient célébrer les 60 ans de relations diplomatiques entre la France et la Chine. Mais derrière cet anniversaire symbolique, quels sont les objectifs de cette visite? Élément de réponse avec Harold Diman.
La visite d'État commencera véritablement le lundi avec l'accueil par le président Macron de son homologue chinois sur le parvis de l'Élysée. Les deux chefs d'État seront rejoints par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen pendant quelques heures. La discussion trilatérale portera essentiellement sur les relations commerciales. Pour la France, la partie chinoise doit ouvrir davantage son marché à la viande française notamment. Autre point important, les liens privilégiés entre la Chine et la Russie. La France souhaitant que l'industrie chinoise ne contribue pas à l'effort de guerre russe. Le mardi, les deux présidents iront au col du Tourmalet, près de Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, lieu de passage de la flamme olympique le 19 mai. Et endroit où Emmanuel Macron a passé de nombreuses vacances. C'est au cours d'un déjeuner dans un restaurant en altitude que la question clé de l'Ukraine sera abordée plus longuement par les deux hommes. Puis Xi Jinping quittera l'aéroport de Tarbes pour se rendre en Serbie, puis en Hongrie, deux pays qui n'ont pas pris parti pour l'Ukraine.
Les discussions entre Israël et le Hamas se sont achevées ce dimanche en Égypte et reprendront à partir de mardi. Dans l'attente de cette reprise, le chef de la CIA se rend au Qatar pour discuter avec le Hamas. Ce dimanche, Benjamin Netanyahou a réaffirmé qu'Israël ne cédera pas face aux demandes du mouvement islamiste.
Capituler devant les exigences du Hamas serait une terrible défaite pour l'État d'Israël. Une grande victoire pour le Hamas, l'Iran et tout l'axe du mal. La preuve d'une terrible faiblesse pour nos amis et nos ennemis. Cette faiblesse ne ferait que rapprocher la prochaine guerre et repousserait le prochain accord de paix, car les alliances ne sont pas conclues avec les faibles et les vaincus. Les alliances sont conclues avec les forts et les vainqueurs.
Et Emmanuel Macron a de son côté réagi. Le président de la République appelle le Premier ministre israélien à mener à bien les négociations avec le Hamas. Dans ce contexte où aucun accord n'a encore été trouvé, l'armée israélienne annonce avoir fermé le principal point de passage de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza à Kerem Shalom, après que la zone a été visée par des tirs de roquettes. Trois soldats de Tsahal ont d'ailleurs été tués dans cette offensive revendiquée par les brigades Al-Qassam, branche armée du Hamas. Un peu plus tôt, les autorités israéliennes avaient refusé l'entrée dans Gaza au patron de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Et puis toujours au chapitre du conflit israélo-palestinien, Benjamin Netanyahou a annoncé la fermeture en Israël de la chaîne Al Jazeera. Son ministre de la Communication précise d'ailleurs ce choix sur X et accuse la chaîne de menacer la sécurité du pays. Réaction immédiate du Hamas qui a qualifié cette décision de violation flagrante de la liberté de la presse, visant à cacher la vérité sur la guerre dans la bande de Gaza. Au lendemain des élections locales au Royaume-Uni, la tendance est claire. Les électeurs britanniques se sont détournés des deux principaux partis. Les travaillistes emmenés par le maire de Londres, Sadiq Khan, ou les conservateurs du Premier ministre, Rishi Sunak. Au cœur de ce scrutin est déterminant dans le vote le conflit donc entre Israël et la Palestine. À Londres, notre correspondante Sarah Menaille.
Le premier bilan à tirer de ces élections municipales britanniques, eh bien, c'est la défaite cinglante de la majorité conservatrice au pouvoir. Le parti conservateur dirigé par le Premier ministre Rishi Sunak a perdu pas moins de 10 municipalités, mais surtout ce sont 400 conseillers municipaux conservateurs qui vont devoir quitter leur siège. Alors ce n'est pas pour autant une victoire éclatante non plus du parti, du principal parti d'opposition, le parti travailliste dirigé par Keir Starmer, puisque eh bien, dans de nombreuses villes, eh bien, les électeurs ont choisi de se détourner des deux principaux partis. Le conflit israélo-palestinien s'est invité à la table des débats et beaucoup de candidats, notamment sous la bannière d'indépendants, ont connu une percée. C'est le cas notamment à Leeds, à Bradford, à Burnley, dans le nord de l'Angleterre. Les candidats ayant fait campagne sur Gaza, ayant surfé un petit peu sur la cause palestinienne, se sont donc invités dans le scrutin et ont fait des percées, mécontents de l'inaction, selon eux, du gouvernement conservateur au pouvoir et du principal parti d'opposition, donc du parti travailliste. La communauté musulmane du nord de l'Angleterre a beaucoup voté en ce sens. Cette victoire est pour Gaza, elle est pour la Palestine. Voilà ce qu'a par exemple déclaré un élu écologiste samedi en célébrant sa victoire à Leeds. Alors ce qui inquiète aujourd'hui en Grande-Bretagne, c'est la polarisation des débats, c'est la division qui s'est accentuée ici au sein de la société britannique depuis le 7 octobre dernier. Et ce scrutin, bien que local, constitué quand même pour la classe politique britannique un test majeur, puisque le conflit israélo-palestinien devrait une nouvelle fois s'inviter à la table des débats en ce qui concerne les élections générales qui doivent avoir lieu cette fois-ci à l'automne.
Et puis dans la nuit de samedi à dimanche se tenait au Brésil un concert historique, celui de Madonna sur la mythique plage de Copacabana, pour célébrer la dernière date d'une tournée à la gloire de ses 40 ans de carrière. Corentin Alonso.
Peu avant 23h, déguisée en Madonna, la star planétaire est venue conclure sa tournée par un concert historique sur Copacabana. L'idole de la pop a vu les choses en grand, avec des tubes, des changements de tenue incessants et des chorégraphies savantes. Elle a fait honneur au Brésil. Était-il des centaines de milliers, 1 million ou 1,5 million? Impossible à dire, mais ce qui est sûr, c'est que la plage la plus mythique de Rio était noire de monde. Sur le sable, sur les bateaux et même dans les arbres, tout le monde voulait voir la chanteuse américaine.
C'est une grande joie pour moi d'être ici alors que je fête mes 60 ans. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Madonna a fait partie de ma vie, de ma jeunesse. C'est une grande émotion d'être dans cet environnement avec la merveilleuse énergie de Rio de Janeiro.
En 1993, lorsqu'elle est venue au Brésil, je voulais vraiment aller au concert de Madonna. Mais ma mère m'en a empêché parce que j'étais trop jeune. Quand j'ai dit à ma fille que je voulais aller au concert de Madonna, elle m'a dit « Qui est Madonna ?» Je lui ai expliqué, je lui ai parlé de Madonna et de son influence sur la génération des années 80.
Selon le maire de Rio, qui a participé à la production du concert, ce dernier a généré 53 millions d'euros de retombées pour l'économie locale.
Le journal des sports et Liverpool qui conserve un mince espoir de titre en Premier League. Les hommes de Jürgen Klopp se sont imposés 4-2 ce dimanche après-midi face à Tottenham à Anfield. Avec 5 points de retard sur l'actuel leader Arsenal, les Reds sont encore mathématiquement en position d'être champions. Les meilleurs moments de cette rencontre avec Raphaël Redon.
Mohamed Salah titulaire, Jürgen Klopp souriant. La réception de Tottenham semble avoir ramené de la normalité à Liverpool. À 8 points du leader, les Reds évoluent désormais en roue libre. Intenable, Salah est partout, extérieur pied gauche, frappe pied droit. Tête smatchée.
Gakpo par-dessus pour Salah. Après la polémique, la réplique.
25e but, toute compétition confondue cette saison pour Salah qui lance Liverpool. Côté Spurs, la titularisation de Bettencourt à la place de Madison fait reculer le bloc, mais ne change rien au problème de défense. Avant la pause, Robertson fait le break. Le retour au vestiaire ne change pas le scénario de la rencontre. En moins d'un quart d'heure, Gakpo, puis Elliott enfoncent le clou. Piqué au vif, Postecoglou fait entrer Madison et Richarlison, le Brésilien, buteur puis passeur décisif pour Son, rend la gifle moins rouge. La victoire, elle, reste éclatante, 4-2 score final. Au classement, Liverpool revient à 4 points de Manchester City et 5 des Gunners.
En rugby, Toulouse s'est qualifié pour sa 8e finale de Champions Club. Les Toulousains se sont imposés face aux Anglais des Harlequins, 38-26. Au terme d'un match spectaculaire, les hommes d'Hugo Mola retrouvent la finale, 3 ans après leur dernier sacre européen. A noter dans cette rencontre le doublé d'Antoine Dupont qui a inscrit 2 essais en fin de première mi-temps. En finale, les Rouges et Noirs seront opposés aux Irlandais du Leinster le 25 mai prochain. Direction l'Espagne et la finale du tournoi ATP de Madrid. C'est le Russe André Rublev qui remporte le tournoi, son 2e Masters 1000. L'actuel numéro 8 au classement mondial s'est imposé en 3-7, 4-6, 7-5, 7-5 face au Canadien Félix Auger-Aliassime. Un peu plus d'un an après sa victoire à Monte Carlo, Rublev se place comme un des hommes forts sur terre battue cette saison. Prochain rendez-vous la semaine prochaine au Masters de Rome avant le début du tournoi de Roland-Garros prévu le 20 mai prochain. On termine ce journal des sports avec de la Formule 1. Sixième manche de la saison à Miami ce dimanche soir. Et c'est le pilote britannique Lando Norris qui remporte le premier Grand Prix de sa carrière. Il devance Max Verstappen et Charles Leclerc. Le résumé de la course avec Thierry Bochard.
Vainqueur en 2022 et 2023, Max Verstappen vise un triplé à Miami. Le départ est marqué par un tout droit de son coéquipier Pérez dans le premier virage. Sainz est obligé de freiner. Leclerc récupère sa deuxième place et l'Espagnol peste forcément. Alors que sa ferraille entre les Alpines, Verstappen s'échappe et petit moment d'inattention, il fonce dans un cône et le laisse au milieu de la piste. Les commissaires finiront par le récupérer. Plus grave, l'accident Magnussen-Sargent.
Alors on voit l'accrochage, il y a des
disons qu'il n'y a pas un concours d'intelligence.
Lando Norris est en tête quand il s'arrête au stand, mais la safety car est encore derrière lui quand il en ressort.
La safety car qui est rentrée devant Verstappen mais qui n'est pas sortie en piste devant Norris. Là c'est un cadeau de Noël très très avant l'heure.
Au restart, Norris résiste à Verstappen alors que l'autre McLaren, celle de Piastri, doit oublier l'idée de finir dans les points. La faute à un choc avec Sainz. Norris surprend son monde et prend vite 3, puis 4, puis 5 secondes d'avance sur l'ogre néerlandais. Norris qui va tenir bon et confirme ainsi les progrès fulgurants des McLaren. Verstappen doit s'incliner. Il finit deuxième devant Leclerc, Ocon et dixième Gasly, douzième.
Voilà, restez bien avec nous sur CNews. On continue de parler de cette reconstitution dans le centre-ville de Nanterre. Moins d'un an après la mort de Naël, tué fin juin 2023 par le tir d'un policier. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle édition.
Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.